Cube Radio.
CAA Québec, fier présentateur de l'émission Le Guide de l'Auto. Saviez-vous que CAA Québec, c'est aussi pour les véhicules électriques? Découvrez le balado sans détour, des conseils, des offres exclusives et bien plus au caaquebec.com. Bonne écoute!
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 12 juin 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, cette semaine, on a fait l'essai de véhicules électriques multiples. On en reparlera un petit peu plus tard, plus particulièrement du Volkswagen ID4. Mais on commence par le fait que, bon, on a des collègues qui ont roulé la Civic berline cette semaine, la nouvelle.
Tout est sous embargo encore pour, pour quelques jours. Mais chez Honda, on a aussi eu, je sais pas si on peut appeler ça la brillante idée de nous présenter un aperçu de la Civic à Hayon. Et là, on nous la présente, la voiture est en mouvement, en contre-jour complètement. On voit à peine ce qu'on pourrait distinguer comme une automobile.
Une silhouette, là, ouais, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Peut-être une petite suggestion à l'avenir, si vous voulez nous présenter des teasers comme ça, de mettre la voiture derrière un arbre, caché en pleine nuit, ou une roche, peut-être. Mais bref, présentez-la.
Parce que là, on salive pas, là. On fait juste...
Ben non.
C'est quoi, là?
Non, mais on la montre ou on la montre pas, là, et on passe à autre chose, là. Donc, bref, c'était un teaser, mais un teaser de pas grand-chose, là.
Bon, au moins, dans le teaser, on a confirmé qu'elle serait disponible avec une boîte manuelle, ce qui n'est pas le cas de la berline.
Non,
au
exactement.
Moins. Alors ça, c'est une première nouvelle intéressante. Maintenant, il y a aussi Nissan qui a dévoilé...
dévoilé la date de dévoilement de la Z.
On a déjà dévoilé, mais qu'on a déjà vu.
Ben c'est ça, on nous avait présenté la Nissan Z dans une version prototype qui va ressembler là.
Il y a plein de photos espions sur internet partout.
Oui.
Alors vous n'aurez pas de grande surprise le 17 août lorsqu'on va la présenter.
Et le concept n'a pas l'air là d'un vaisseau spatial, donc et tous les éléments qu'on doit retrouver sur une version de production sont là. Donc bref, il n'y aura pas de grande surprise, j'ai l'impression. Le 17 août, lorsqu'on va la dévoiler. On devrait la dévoiler au Salon de l'Auto de New York. Est-ce que cet événement aura lieu?
Bonne question.
Il reste encore quelques semaines, mais voilà.
Bon, autre dévoilement, bon, le Sportage 2023. Donc, on sait que le 2022, ça sera du copier-coller pour une courte période, parce que le 2023 va arriver assez rapidement. Et chez Kia, on sait aussi que d'ici la fin de l'année, arriveront les versions hybrides et hybrides rechargeables du Sorento. Là.
Oui, effectivement, ça, c'est très attendu. Mais pour ce qui est du Sportage, donc, on a dévoilé des images cette semaine. Vous pouvez aller voir ça sur le site du Guide de l'Auto, bien évidemment. Mais on n'a dévoilé aucun détail technique en lien avec ce VUS-là. Cela dit, on a appris quand même qu'il y a une version X-Line qui allait s'ajouter. Même chose que pour le Sorento, par exemple. Donc, on devra attendre un peu plus longtemps pour voir les détails techniques, les choix de motorisation et compagnie.
Le Guide de l'Auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Tu le disais en introduction, Antoine, cette semaine, on a mis à l'essai quatre véhicules électriques dans l'optique de préparation du Guide de l'Auto 2022 qui sortira un peu plus tard cette année.
Ouais.
Et celui qu'on avait le plus hâte de conduire, je pense, qui était une nouveauté pour tous les essayeurs, c'était le Volkswagen ID4 qui arrivera, lui, plus tard cet automne.
Oui, mais qui sera quand même millésimé 2021. Oui. Ça, c'est quand même assez curieux.
Parce qu'il est déjà distribué aux États-Unis, il faut le dire. Ouais. Les concessionnaires ont déjà commencé à en vendre. Ils en ont en inventaire même, alors que nous, on devra attendre à la fin de l'automne. Et ce qu'on nous a dit, c'était que pour le marché canadien, on voulait arriver avec la version propulsion et la version à quatre roues motrices en même temps, sachant que la version à quatre roues motrices allait être la plus prisée. Donc, on voulait débarquer un peu plus... on voulait
avec
débarquer
la gamme complète.
Avec la gamme complète. Et c'est pour ça qu'on doit attendre vendre au Canada.
Donc, celle qu'on a essayée, c'est une version propulsée. Moteur de 201 chevaux. La version à 4 roues motrices aura 302 chevaux. Batterie de 82 kWh. On parle de 402 km d'autonomie dans le cas de la version propulsée.
Et ça devrait... Et ça nous paraît réaliste, là. C'est
plus
pas...
réaliste, puisque hier, en prenant le volant du véhicule après une recharge complète, on affichait un peu plus de 450 km. Mm-hmm. Alors, c'est réaliste, voire même conservateur. D'autres essais seront nécessaires pour qu'on puisse le confirmer, bien sûr. Et on a bien hâte aussi de conduire la version 4 roues motrices.
Parce qu'il faut le mentionner, les autres véhicules qu'on a conduits, c'était le Volvo XC40, le Ford Mustang Mach-E et le Tesla Model Y, qui étaient tous à 4 roues motrices. Donc,
avec une puissance supérieure.
Oui, donc l'ID4 nous a paru désavantagé, forcément, parce qu'il ne se battait pas à armes égales.
Oui, sauf que le prix est attrayant. Et ça, c'est le nerf de la guerre. En fait,
le prix est attrayant, ce qui fait qu'il est encore plus attrayant grâce aux subventions.
Exactement. Donc, 44 995 à 57 995 selon la version, l'équipement que vous allez choisir avant, évidemment, les crédits applicables. Et comme le modèle de base est sous la barre des 45 000, ben, toutes les versions sont disponibles avec les crédits, autant provinciaux que fédéraux. Donc, 8 000 du Québec, 5 000 du Canada, ce qui totalise 13 000 taxes incluses de crédit. Donc, par exemple, vous prenez une version de base à 4 roues motrices, ben c'est 50 000 $ plus taxes, vous êtes à 57 500 moins 13 000 $ Alors, ça devient quand même assez intéressant. Là, vous allez avoir une machine pas mal intéressante qui va, au final, vous coûter le même prix qu'un Tiguan équipé adéquatement, là.
Oui, donc ça va être intéressant et c'est un bel incitatif pour des gens de passer justement de l'essence à l'électrique parce que, bon, c'est pas un premier véhicule électrique pour Volkswagen. On avait la e-Golf, mais ça s'adressait pas à tout le monde. On avait une plus petite autonomie, un format aussi qui était peut-être pas nécessairement prisé. Quand on sait que beaucoup d'acheteurs vont... Beaucoup d'acheteurs vont se diriger vers le Tiguan, mais d'avoir un équivalent, et là je le mets en guillemets, électrique, c'est bien. C'est un véhicule qui est très spacieux, hein? C'est important de le mentionner. On a un grand coffre à l'arrière, mais on n'a pas d'espace de rangement à l'avant. Donc certains véhicules électriques vont l'avoir, mais bon, c'est pas le cas de l'ID4, et le besoin n'est pas là non plus. Là.
Le besoin n'est pas là, puis de toute façon, le volume intérieur est tel qu'effectivement, ça devient presque inutile.
Ouais.
Mais évidemment, c'est un véhicule pour la famille qui est super pratique. Il y a énormément d'espace là-dedans. J'insiste sur le plancher plat à l'arrière, ce qui fait en sorte que vous pouvez prendre place. Trois personnes peuvent prendre place
à
bord.
Il n'y a pas de bosse dans le milieu.
Donc, trois personnes confortables sur la banquette arrière. Volume de charge à l'arrière qui est très pratique. Beaucoup de dégagement pour le conducteur, le passager. Un truc qui m'a agacé, moi, c'est l'absence d'un bouton de volume de radio et de bouton physique pour un accès direct à la climatisation. Il faut passer à travers les menus de l'écran tactile. Donc ça, c'est peut-être un peu agaçant. Mais sinon, l'ergonomie, elle est parfaite. Il y a beaucoup de dégagement, beaucoup de luminosité. La finition, c'est très bien aussi, là.
Oui. Et bon, tu faisais référence là, à l'écran. Il y a certaines lenteurs qui ont été remarquées aussi. Il y aura place à amélioration. Puis on le sait, tout passe par ce fameux écran-là qui est au milieu de la planche de bord. Donc, si on peut avoir un minimum de réaction, ça serait la moindre des choses.
Le délai de réaction est peut-être un petit peu à retardement. Donc ça, il faudrait corriger. Mais de toute façon, le véhicule qu'on a conduit, c'est une des premières productions.
Absolument.
On ose croire que la qualité s'améliorera et on l'espère parce que sur route, je peux pas dire que j'ai été impressionné, ça craque, des bruits de suspension considérables.
Ouais. C'est un véhicule qui est très pesant, hein?
Très lourd. Au-delà des 2200 kg dans sa version propulsée, près de 2500 kg dans sa version à 4 roues motrices, on frise le poids d'un Chevrolet Suburban.
Ouais.
C'est pas des farces, là.
C'est quelque chose.
Ouais. Alors, faut pas être étonné de ressentir tout ce poids-là, mais c'est quelque chose que le Mustang Mach-E ne nous fait pas sentir avec autant d'importance. Alors, est-ce que on a coupé dans le plaisir au volant ou en fait on s'en est fiché en développant ce véhicule-là? Ne pensez pas retrouver le plaisir de conduire d'une GTI ou d'une Golf avec ça. C'est pas
un
ça.
Moyen de transport électrique.
Exactement.
Et c'est pas parce que, justement, justement, le même constructeur a développé des GTI, des Golf R qui sont très, très, très plaisantes à conduire et qu'on a eu une panoplie d'autres véhicules qui étaient ordinaires, mais plaisants à conduire quand même. Si on recule par le passé, des Jetta et des Golf ordinaires, c'était le fun à conduire.
C'est ça.
Là, on ne retrouve rien de cette essence-là avec l'ID4.
Non, non, non. Pas d'essence du tout. Mais,
voilà.
Mais parallèlement, ben, on a essayé le Mustang Mach-E qui, moi, m'a semblé plus intéressant à conduire. Un Mustang qui, au final, me semble un produit peut-être plus attrayant en ce qui me concerne, mais qu'il l'est finalement moins en raison de son prix, parce
Absolument.
Que le Mustang, le prix d'entrée est à 50 000 et des poussières, donc là, on perd le crédit fédéral. Le crédit applicable est donc de 8 000, et si tu veux avoir la version premium à 4 roues motrices, le crédit ne s'applique plus, puisqu'il dépasse les 60 000 $ on avait déjà raconté l'histoire ici à l'émission un peu plus tôt. Ouais. Bon, il y a eu confusion au niveau du gouvernement et de l'application des taxes et, ou des crédits là, sur cette version-ci. Mais finalement, si vous voulez 4 roues motrices sur un Mach-E, ben, ça prend la version autonomie régulière pour pouvoir bénéficier du 8 000 de rabais et non pas du 13 000 qu'on offre sur n'importe quelle version du Vaux.
Et voilà.
Alors, pas besoin de vous dire qu'il y a un sérieux avantage là. Maintenant, il y a disponibilité qui
oui,
risque d'être un enjeu.
Parce qu'on sait que la demande est déjà très forte pour ce véhicule-là. Les carnets de commandes sont pleins. Donc, reste à voir si Volkswagen va être capable de suffire à la demande rapidement. On sait qu'on veut transformer l'usine à Chattanooga, au Tennessee, pour les assembler là, parce que initialement ils seront assemblés du côté de l'Allemagne. Bref, tout ça pour dire qu'on a très hâte de conduire la version à 4 roues motrices.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, on s'est gardé de parler du Maverick avec un peu plus de détails parce qu'on a avec nous cette semaine Marc Lachapelle, notre cher collègue du Guide de l'Auto. Marc, qui a débuté au Guide de l'Auto pour parler des camionnettes compactes.
Il y a de ça quelques années.
Oui, il débarquait sur le marché nord-américain alors que j'avais quoi, 4-5 ans peut-être, les premières camionnettes américaines. 82, là c'est ça, j'avais 5 ans. Alors Marc, bienvenue parmi nous.
Bonjour. Bonjour Marc.
Ben, bonjour monsieur.
Alors Marc, toi tu étais d'abord pour la petite histoire, là, peut-être rappeler aux gens comment tu as mis le pied dans l'engrenage du Guide de l'Auto.
Ben, je vais faire ça en condensé, c'est facile à expliquer. Moi je connaissais déjà Denis Duquet, que j'avais connu par comme journaliste à la pige là, finalement. J'étais travaillé dans le domaine de la moto, moi j'étais journaliste de moto à l'époque. Mais je me suis toujours intéressé à l'automobile depuis les années 60, j'ai les magazines, puis tout ça, toutes ces choses-là m'intéressaient. Mais je travaillais beaucoup du côté de la moto, puis Denis savait que je faisais de la photo, puis toutes sortes de choses. Puis je vais lier au journalisme aussi. Puis ça donne que M. Duval, Jacques Duval, n'aimait vraiment pas, puis n'aime toujours pas les camions, camionnettes, utilitaires, tout ce qui ressemble à ça.
Ouais.
Et puis, ils étaient tous les deux déjà bien occupés avec tout ce qui s'appelait automobile. Ils ont cherché, justement, avec l'avènement des camionnettes compactes, ça grossissait, là. Il y avait une expansion incroyable, justement, quand les Américains sont arrivés. Ils cherchaient quelqu'un pour faire des essais, faire une section spéciale. Alors, pour faire une histoire courte, je me suis retrouvé à faire peut-être une vingtaine d'essais, je ne me rappelle pas exactement le chiffre précis, mais j'ai écrit pour ma première participation officielle au Guide de l'Auto, j'ai écrit toute une section sur les camionnettes compactes, puis voilà, le reste, ben, ça fait partie de ma petite histoire.
Et tout ça est peut-être un peu paradoxal, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ses débuts avec les camionnettes, parce que les plus jeunes comme moi ont pu te voir, entre autres, là, à la télévision, à Vox, en train de conduire des bolides d'exception à vitesses, oui, des vitesses fulgurantes, mais c'était des débuts...
Puis on parle pas d'un F-150 Lightning, là.
Non, on parle de bolides exceptionnels dans les hautes voltiges, mais c'était des débuts avec des camionnettes un peu plus lentes.
Oui, c'est drôle, parce que toutes sortes de coïncidences amusantes, si tu mentionnes ça, camionnette. Puis, mais ce métier-là m'a permis de découvrir, entre autres, que j'étais pas si mal avec pas pire avec un volant entre les mains. Puis c'est vraiment ironique parce que j'ai découvert ça de façon concrète lors d'un voyage au Japon. C'était justement pour essayer une nouvelle camionnette Mazda. Puis les gens avaient organisé, vous savez ce que c'est, là, des autocross, les épreuves de slalom. Puis j'étais là, puis il y avait toute la...
Ben, y avait pas mal avec un Mazda de série B?
avec un Mazda de série B.
Oh, moi. Ouais.
Pour amuser les journalistes, pour occuper, amuser les journalistes, ils avaient mis sur pied une épreuve d'autocross chronométrée avec un slalom, puis tout ça. Moi, j'aime conduire, j'ai toujours adoré conduire, point final, là. J'aime beaucoup la moto, puis je conduis des véhicules à quatre roues, évidemment. Puis, on part, puis tout ça. Moi, j'ai une petite camionnette, comme vous avez modifié la suspension, abaissée, qui était vraiment, vraiment amusante à conduire. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Je me suis amusé à conduire, puis j'ai découvert ce jour-là que j'étais peut-être pas si mauvais, parce que j'ai gagné le fameux slalom, la fameuse épreuve d'autocross par une seconde et trois dixièmes, quelque chose de même. Fait que c'était un genre de révélation pour moi. Puis c'est ça, Germain, qui m'a mené à fil en aiguille.
C'est quand même ironique d'avoir fait de l'autocross avec un série B.
Oui, c'est très improbable, là.
Oui, mais c'est drôle parce qu'ils avaient vraiment bien modifié, les pneus étaient plus larges, suspension était... Écoutez, une camionnette, là, pensez à une série B, une petite camionnette japonaise, c'était assez léger.
Ouais.
Le châssis était rigide.
Oui, le poids était très bien équilibré, d'ailleurs.
Ben oui, j'en ai conduit. Ben, écoute, pour conduire l'hiver sans avoir les quatre roues motrices au Québec, c'est une histoire. Ça, j'ai quand même vécu ça avec plusieurs camionnettes, mais sinon, c'était ça survirait
instantanément, ben oui, c'est sûr.
Ben oui, c'est le fun. Alors, ça a amené à tout le reste, finalement. Puis l'année suivante, après cette première année-là, déjà M. Duval m'a confié des essais d'automobile. Je présume que j'ai fait un job correct dans mon québécois pour les camionnettes. Mais j'ai continué à m'intéresser aux camionnettes.
Puis évidemment, les premières camionnettes compactes qui sont arrivées en Amérique du Nord, ce sont des camionnettes japonaises. Les Américains n'avaient pas mis le pied dans cette business-là. En fait, les Japonais proposaient des camionnettes compactes pendant que les Américains avaient quelque chose de pas mal plus gros, là.
Oui, bien, c'est ça. Puis je pense qu'ils ont dû on va présumer qu'ils se sont réveillés quand ils ont vu les chiffres de vente, puis quand ils ont vu que Toyota puis Datsun à l'époque, parce que c'était Datsun encore à ce moment-là, qui connaissaient quand même une certaine réussite avec ces modèles-là. Puis là, bien, Toyota, moi, à mes yeux, c'est vraiment Datsun qui a donné le coup d'envoi, qui les a peut-être réveillés le plus solidement quand ils ont lancé leur fameux King Cab.
King Cab, bien sûr, absolument.
Ben oui, la première camionnette à cabine allongée, c'est un trait de génie, hein, c'est une idée de génie.
Et allongée, il fallait le dire vite à ce moment-là, là.
Oui, c'était même pas. Écoute, il y avait deux petits strapontins, deux petits sièges qu'on abaissait à l'arrière, mais ça changeait tout, hein. On en a parlé tantôt, là, juste avant avant l'émission. Mon premier véhicule, moi, c'était un Scout, un petit Scout international qui était la version camionnette. Il y avait absolument pas d'espace dans la cabine. Non. C'était un coffre à gants, puis c'est tout. Quand on parle de... C'est un peu une blague quand on parle aujourd'hui que le rangement est ordinaire, ben c'est déjà probablement trois fois plus que ce que j'avais dans...
Ah oh, oui, aujourd'hui, tu peux mettre un laptop dans ton accoudoir, puis à cette époque-là...
Puis aujourd'hui, on a conservé l'appellation cabine régulière pour une camionnette, finalement, avec pas d'espace... Pas d'espace à l'arrière dans la cabine, mais c'est plus du tout la norme, là. C'est plus du tout ça. Mais on a conservé l'appellation régulière, ce qui est assez ironique, là.
C'est absolument ironique parce que on perçoit ça comme le contraire. C'est plus maintenant aux yeux de à peu près tout le monde, ça serait une cabine contractée ou une cabine amoindrie.
Oui, j'ai 85% des ventes de pick-up aujourd'hui, c'est du 4 portes.
Et même sur le plan du design, on voit qu'ils ont été pensés aujourd'hui pour être 4 portes parce que quand on les voit avec 2 portes seulement,
ils se mettent une moulure de plastique disgracieuse pour essayer de boucher un trou parce que
c'est
Tesla est designé en ce sens-là.
C'est un peu... ça choque l'œil, alors qu'auparavant, c'était la norme. Marc, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'on assiste finalement à la naissance, à l'arrivée d'un nouveau segment chez les camionnettes. Antoine et moi, on n'est peut-être pas encore tout à fait d'accord sur sur le positionnement des deux nouveaux véhicules. Bon, on y va dans l'ordre. Il y a quelques semaines, Hyundai a dévoilé le Santa Cruz, un véhicule pour lequel on nous présentait des prototypes et des versions conceptuelles depuis plusieurs années. Et là, on débarque enfin avec ça. Antoine, de son côté, pense que ça va être davantage un rival du Honda Ridgeline. Mais là, bon, coup de théâtre, cette semaine, Ford a dévoilé le Maverick, qui ça va véritablement être... véritablement être une camionnette compacte, là, bien plus petite et compacte que le Ranger, oui, qui lui est un intermédiaire. Donc, est-ce que effectivement, on assiste à l'arrivée d'un nouveau segment dans l'automobile? J'ai bien l'impression que oui, là.
Et c'est franchement, il y a matière à débat. J'ai été vraiment impressionné quand j'ai vu arriver le Maverick, parce que, écoutez, ça arrive quoi, deux semaines à peine après le dévoilement de la F-150 Lightning, qui était justement, pas un coup de tonnerre, mais qui était...
un gros coup d'éclat.
Un éclair de génie.
C'est un éclair de génie, oui, effectivement. Écoute, c'est vrai, quand même. Puis là, Ford nous arrive avec ça. On savait quand même que quelque chose qui arrivait. On a vu des photos de prototypes, etc.
Ouais.
Non, c'est drôle parce que je vois... on parle de l'époque où j'ai débuté. Je trouve que je reconnais beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux, parce qu'à l'époque, je regarde toute l'étendue des véhicules que j'ai essayés. Ça allait des Chevrolet S10, Datsun King Cab, mais ça allait jusqu'à au Dodge Rampage. Le Dodge Rampage, qui était une petite voiture. Puis moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, le Rampage, la camionnette Volkswagen, parce qu'il l'appelait Pickup, apporte un autre nom en Europe. Je suis sûr qu'Antoine, vous avez
le Caddy. Oui, le Volkswagen Caddy.
Hein, je pense.
Ouais.
C'est ça. Ils n'ont jamais utilisé ce nom-là en Amérique du Nord. Moi, j'ai conduit ça avec un petit moteur diesel. Alors, si tu regardes toute la gamme, la variété déjà, qu'on trouvait dans cette catégorie-là au début des années 80. Moi, c'est exactement ça que je retrouve. Là.
Ben oui, parce qu'on retrouve, en fait, ce sont des véhicules monocoques. Fait que c'est plus... On n'utilise pas un châssis indépendant, là.
Ouais, ça,
c'était le cas de la Rampage puis de la camionnette Volkswagen aussi.
Exactement. Faut dire que c'était les deux exceptions, tandis que la nouvelle Maverick est construite sur une carrosserie autoporteuse. Là, c'est vraiment une monocoque, entre guillemets. Là.
Et c'est le cas du Santa Cruz également.
Absolument, c'est ça. C'est ce qui est dérivé du Tucson. En gros, c'est l'architecture qui est partagée avec le Tucson. Je trouve ça bien intéressant parce que, puis en plus, ça me fait penser à deux autres véhicules qui sont des hybrides, mais pas au sens de la propulsion, parce qu'on va parler d'hybrides bientôt, là, dans le cas du Maverick. Mais moi, ça me fait penser au Chevrolet El Camino et au Ford Ranchero. Et ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que j'ai été aussi propriétaire d'un El Camino, en plus du Scout. Je retrouve un petit peu ce genre de véhicule-là, surtout en regardant le Santa Cruz, en épluchant un peu ce qu'on a eu de fiches techniques, parce que c'est un petit peu rudimentaire, on n'a pas tous les détails, mais c'est un véhicule qui est quand même plus compact, il y a quand même une recherche de style aussi, c'est quand même beaucoup de gueule, à mes yeux en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de gueule, puis le côté, c'est plus le côté voiture, le côté... de civilité qui est là, mais ça peut quand même tracter à 5000 livres, etc., etc.
Ben, aux 4000, chose, justement, pour celui qui a peut-être pas suivi l'actualité cette semaine, qu'est-ce qu'il faut savoir au sujet du nouveau Maverick?
Ben, le nouveau Maverick. C'est drôle parce que ma première perception, je pense que c'était deux versions distinctes, mais c'est pas ça. La version de base, entre guillemets, c'est, il faut savoir, là, c'est une camionnette traction. C'est une camionnette à roue avant motrice.
Ouais.
Mieux que ça, à groupe propulseur hybride. Donc, on se retrouve avec une camionnette qui est quand même de profil assez traditionnel, avec une ligne, avec une silhouette anguleuse, une carrosserie anguleuse, qui a toute l'apparence d'une camionnette classique, mais qui est à roue avant motrice et à groupe propulseur hybride.
Ouais.
Alors ça, c'est quand même déjà quelque chose. Puis, au lieu de créer une deuxième version, ce que j'en ai compris, à regarder toute la documentation de Ford, puis ce qu'ils annoncent déjà sur leur site, parce qu'on peut déjà commander, c'est que en optant pour le gros propulseur optionnel, justement, le deuxième, c'est un 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé qui, lui, arrive avec 4 roues motrices. Donc, c'est ça qu'on ma première perception, de manière que ça a été présenté, c'est quand même comme deux modèles distincts. En fait, c'est trois niveaux de présentation. C'est XL, XLT ou Lariat,
ouais,
avec le choix de ces deux groupes les deux groupes propulseurs différents. Puis je trouve que ça fait deux véhicules. Il y a évidemment beaucoup de similitudes, mais ça fait quand même...
C'est deux approches différentes, là. Traction hybride ou quatre roues motrices, quatre cylindres turbo, ouais, là, il y a un monde entre ces deux-là, là.
Savez-vous à quoi ça m'a fait penser? C'est drôle, ça m'a fait penser une fable de La Fontaine. Le rat de ville et le rat des champs. Il y en a une camionnette, une traction à gros propulseur hybride dans ma tête. C'est une camionnette urbaine, tu sais, c'est une camionnette banlieusarde. Tu sais, c'est pas les vrais amateurs de camionnettes vont garder ça avec un drôle d'œil.
Oui, mais je pense pas qu'on essaie non plus d'aller charmer des acheteurs de F-150. Là.
De toute façon, moi, ce que je vois à travers ça, c'est, tu sais, j'en parlais avec Germain Ordonne, j'ai dit, tu sais, pour moi, ce nouveau Maverick-là, c'est ce qui vient remplacer une Fusion, une Focus, une Fiesta. Ford n'a plus de voiture et pour se démarquer et pour rejoindre une clientèle qui achète des véhicules plus compacts et moins onéreux, ben plutôt que de lancer une nouvelle voiture, on débarque avec une formule camionnette qui plaît à l'acheteur moyen nord-américain et qui va s'y retrouver en économisant de l'essence ou en consommant un peu comme avec une voiture compacte, comme avec une Honda Civic.
Parce qu'on est cette zone de prix-là, en plus.
Puis on est capable de vendre un véhicule à 30 000 $ sans que le client ait l'impression de se faire avoir, alors qu'on n'était plus capable de vendre des Focus à 17 000.
Oui.
Fait qu'il y a ça aussi, là.
Ou des Cosport à 26 000, mais ça, c'est une autre histoire.
C'est ça.
Mais c'est drôle, parce que c'est ce que... finalement, ouais, c'est ce que je vois aussi, le côté... Ce que je trouve ironique, c'est que si on regarde les acheteurs et acheteuses de camionnettes, quand même des femmes qui en conduisent, là, même certaines bien connues, c'est pas c'est quoi l'utilisation réelle d'une camionnette pour toutes ses qualités pratiques? C'est un pourcentage qui est peut-être pas aussi élevé. C'est sûr que tous les contacteurs en ont une. Puis même là, le patron se promène, mais il sert peut-être jamais de la plateforme à l'arrière.
Ouais, c'est ça.
Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a quand même un élément qui est pas rationnel là-dedans, mais que ça fait quand même des véhicules intéressants à conduire, puis pratiques, puis robustes, puis tout ça. Puis effectivement, comme Antoine le disait, si on ajoute là-dedans la frugalité d'un groupe propulseur hybride, ça devient intéressant parce que 5,900 litres au 100 km, on commence à parler de consommation intéressante. Même
ben, on est au niveau d'une Civic, là.
Ouais. Ouais.
On est carrément là.
C'est ça, ouais. Exactement.
Alors, tu sais, c'est... Puis comme l'automobile peine à se réinventer, comme les parts de marché baissent de plus en plus...
Et comme il y a un engouement pour les camionnettes en général...
Ben, Ford, absolument. C'est un coup de génie pour moi de la part de Ford qui a pris le lead dans ce segment-là.
Oui.
Puis tu sais, on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, il y a des constructeurs qui ont essayé quelque chose. Pense à Subaru avec la Baja.
Oui. T'sais, c'était un essai.
Tu sais, une caisse de 4,5 pieds, c'était ça, là.
Oui, avec un châssis de voiture, là, et une allure hors route, dit rapidement, ben c'était exactement ça. Mais ça n'a pas, levé.
Non.
Non. Mais moi, c'est plus le Santa Cruz qui me fait penser au Baja.
Ouais.
Au Brat aussi, qu'on n'a pas eu au Canada, mais qui est encore plus compact.
Mais qu'on l'a, on l'a eu, le Brat au Canada, quelques années.
Est-ce qu'on l'a eu? Ouais. On l'a eu, mais la voiture, moi, il m'est passé sous le nez parce que je me rappelle même pas.
Avec les sièges en plastique dans la caisse à l'arrière.
À l'arrière, là,
ouais. Pour la, la chicken.
La chicken tax.
Ouais, c'est ça.
La chicken tax, c'est mon tout. C'est beau défi d'expliquer ça en 30 secondes.
Une taxe de poulet.
Oui, voilà.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça.
Mais est-ce que tu vois le. Le Santa Cruz comme un rival direct du Maverick ou comme étant deux véhicules non. plus distincts que ça?
Ah, ils sont très distincts. En fait, c'est drôle parce que ce que j'ai retrouvé, c'est bien intéressant de regarder la présentation que Ford en fait. Surtout après, moi, je suis vraiment intéressé à ce qu'ils ont fait avec la Lightning comme présentation, toutes les ramifications. Mais pas seulement la Lightning aussi, la F-150 qui a été redessinée l'an dernier quand ils sont arrivés avec toutes les innovations qui sont pratiques, les onduleurs électriques à l'arrière. Ils sont vraiment sur un élan, sur une...
Bon, ils ont des problèmes avec la technologie Power Boost, là, déjà. On sait qu'ils ont des problèmes mécaniques avec ça, mais bon.
Oui, mais ça, que c'est comment dire ça, là, c'est un peu la rançon de l'innovation. Là. Mais au moins, il y a une espèce de foisonnement d'idées. Mais il y a la même chose avec le Bronco Sport. Moi, j'ai regardé le Bronco Sport, puis Antoine, on l'a essayé l'automne dernier pour avant de soumettre nos votes. Puis le Bronco Sport, ce que j'ai trouvé dans la version Batland, ben là, c'est un véhicule qui est intéressant, mais je vais penser... Et pour m'empêcher, j'ai pensé à Antoine, j'ai pensé à toi quand j'ai vu les fiches techniques pour le Maverick. Je me suis dit, Dieu merci, ils n'ont pas mis de trois cylindres.
Non, ça aurait été une erreur là, de répéter ça. Là.
Non, puis le pire, c'est qu'un trois cylindres là-dedans, ça me donne l'impression d'un véhicule qui est encore plus petit qu'un Bronco Sport. C'est vraiment un véhicule compact. Oui. Alors, est-ce qu'un trois cylindres... Bon, moi, je suis pas trois cylindres en partant. Je ne crois pas à l'avantage d'une technologie à moteur trois cylindres. Il n'y en a pas. Je veux dire, ça consomme autant, ça force plus, ça vibre davantage. Faut que tu compenses les vibrations avec un paquet de supports.
Ben, voilà.
Il n'y a aucun avantage à avoir une mécanique comme ça.
Il
n'y en a pas. Autre que dans certains pays, avoir des crédits de répondre, taxes à la cylindrée.
C'est ça, de répondre aux critères. Mais...
La fiscalité.
C'est ça. Fait que, bon, là, on a un moteur 2,5 litres, donc de bonne cylindrée avec hybridation. Ça, je pense que ça va être intéressant. Puis en même temps, on ne connaît pas la puissance actuellement, mais je serais curieux de voir ce que cette technologie-là pourrait même faire avec un rouage intégral.
Pourquoi pas?
En fait, c'est ça. Moi, c'est entre autres ça que je me suis posé comme question. Parce que, regardez, on regarde ce que Toyota a fait cette année, récemment avec le Venza puis la Sienna, qui sont allés, comme il dirait à Las Vegas, all-in, pour un groupe propulseur hybride. Là, Ford, puis je pense qu'on n'accorde pas à Ford tout le mérite qui lui revient pour ces modèles hybrides. C'est sûr que Toyota, on connaît le rôle de pionnier que ce constructeur-là a eu avec l'hybridation. Mais Ford, moi, je me rappelle, les fusions, les premières fusions même.
Oui, mais si on prend le C-Max, là, c'était pas ce qu'il y a de plus convaincant. Là. Puis même quand on a joué dans l'électrique avec la Focus, là, c'était pas un grand chelem.
Moi, si vous voulez mon avis, c'était pas tant la technologie le problème que...
Tout le reste autour.
Le désintérêt du constructeur à en vendre. Ce pourquoi les hybrides n'ont pas fonctionné chez Ford pendant 10 ans, c'est parce qu'on voulait rien savoir d'en vendre. Mm. Tu te présentais chez Ford pour acheter un Escape hybride, le taux de financement était à 7,9, mais on te faisait un V6 à 0,9. Ouais. Fait que tu te cassais pas la tête, tu prenais le V6, puis ils voulaient rien savoir de t'en vendre un. Puis ça a été comme ça jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas le choix. Pis la dernière fusion hybride, c'était une bonne voiture, effectivement.
Ça, oui.
Voilà. Puis la précédente aussi, à mes yeux, c'était... C'est ce que je dis, c'est pas parce qu'il n'y avait pas la capacité. Alors, s'il nous arrive avec un Maverick, qui est un gros propulseur hybride dès le départ, je pense que ceci explique cela.
Moi, je crois énormément au succès de ce produit.
Ben, voilà, ça m'amène sur un autre terrain. On sait qu'avec la série F, Ford est un peu le roi du monde. Bon, en 2018-2019, quand on est arrivé avec le Ranger, on s'est dépêché d'arriver avec cette camionnette-là, une camionnette qui était vendue ailleurs dans le monde, qui n'était peut-être pas nécessairement adapté aux besoins des Nord-Américains. Et
ben, je te corrige là-dessus, parce que Ford a mal joué ses cartes là-dessus. On a été en réaction au succès de Chevrolet.
Oui, okay?
Puis,
ben
oui. Puis GM est arrivé en 2015 avec les Colorado Canyon et ça a connu un succès
avec
tel.
Un choix de moteur, tout ce que tu veux.
Puis, ça a connu un succès tel qu'on a ouvert un deuxième corps de travail à l'usine de Wentzville. Puis là, Ford a fait, OK, mais on n'a rien, nous autres, pour bâtir un pick-up compact ou intermédiaire en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben là, il y a un syndicat qui nous oblige à fabriquer des Focus jusqu'à la fin de l'année 2017. On va faire ça. Puis après ça, ça sera l'usine de prédilection pour fabriquer le Ranger. Mais ils ont attendu 2 ans et demi, 3 ans avant de pouvoir réaménager une usine pour finalement fabriquer un pick-up qui avait été développé pour d'autres marchés et qu'on a adapté chez nous maladroitement. Tu sais.
Ben c'est ça. Donc, aujourd'hui, le Ranger n'a pas le succès qu'il aurait dû avoir.
Et il est arrivé trop tard.
Là, en ce moment, on en vend parce que tout le monde veut une camionnette. Mais là, avec le Maverick, comment ne pas répéter cette erreur-là commise avec le Ranger?
Mais ça ne peut pas arriver parce qu'on est pionnier.
Oui, mais on était pionniers avec le Série F avant d'arriver avec le Ranger, puis on s'est planté quand même.
Mais le Ranger, moi, je peux seulement parler des vins que je goûte, là. C'est souvent en manière de décrire le métier qu'on fait. Moi, j'ai été déçu du Ranger à l'utilisation, au concret. C'est sûr que le langage des chiffres, le côté prix, puis tout ça, ils n'avaient pas l'équation. Mais le véhicule lui-même était décevant. Coudonc, il n'y a pas 42 manières de le présenter autrement. Alors, s'ils n'avaient pas un produit gagnant, que tu peignes, toutes sortes de métaphores qu'on pourrait utiliser pour comparer, mais tu sais, tu peux le maquiller tant que tu veux, ça ne veut pas dire que ça va se vendre mieux.
Maquiller, oui, c'est ça.
Oui, maquiller, maquiller.
Pour rester chez Ford.
Je pense que Ford peut dire yay, parce que ça, c'est un succès, évidemment. Regardez, c'en est un exemple de réussite, c'est assez exceptionnel, on en voit. On est tous
ça, c'est hallucinant.
On en voit partout. On en voit partout.
C'est la preuve que quand ils mettent les efforts, ils sont capables.
Voilà.
Tu sais?
Oui. Mais moi, d'ailleurs, j'en démords pas. Ford, puis probablement tous les constructeurs, affectent ses meilleurs ingénieurs aux produits qui vont se vendre. Alors, l'Explorer qui est arrivé au début des années 90, l'ingénieur-chef de ce produit-là, à l'époque, qui a été un succès extraordinaire, c'était l'élite chez Ford. Ils affectent. Alors, je pense qu'effectivement, Mackie, pour avoir écouté plein de présentations, c'est une équipe de choc. Là. Sûrement, c'est les bolés là, qui ont été affectés à ce projet-là, parce que c'est un projet qui était crucial, qui était important. Puis on regarde le résultat.
Puis c'est pas les mêmes que l'Écosport.
Non, c'est l'équipe B, ça, l'Écosport.
C'est le quatrième trio.
On parlait en langage hockey.
C'est ça.
C'est la Ligue Junior. Ouais. C'est la Ligue Junior B. Voilà.
Ouais. Mais bref, Maverick, moi, ça va débarquer ici. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui pensaient peut-être s'acheter, par exemple, un Kona, qui pensaient s'acheter une Elantra, un truc de même, puis qui vont faire « Hey! »
Pour le même prix, je peux avoir ce véhicule-là, très cool, qui consomme pas nécessairement plus et qui va me permettre au printemps d'aller chercher mes sacs de paillis avec ça, de transporter peut-être une moto marine, là, tout dépendant de la version choisie, donc d'avoir un véhicule plus pratique. Et ça, ben, il faut quand même le mentionner, toutes les versions vont être 4 portes, là. Donc on faisait des blagues avec la cabine régulière au début de l'entrevue, mais là, ça va être un authentique véhicule 4 portes.
Ouais.
C'est un 5 places, absolument 5 places. Puis ce que j'ai trouvé encore là en regardant ce qui est photographié, ce qui nous a été présenté, il y a une chose que je remarque dans le Maverick, comme je l'ai remarqué, j'en ai parlé tantôt, dans le Bronco Sport, même les F-150, tous les gadgets, il y a une équipe là chez Ford qui imagine des petits accessoires qui ont la coupe, mais je trouve qu'on n'est pas loin. On est pas mal dans la gadgetisation à certains moments. Je me demande à quel point ça va être utile et durable à certaines de ces bon québécois gogosses-là.
Ben, tu sais, c'est le gag qu'on avait fait.
Avec le F-150, on avait poussé le bouchon un peu trop, là, parce que, d'avoir un porte-crayon sur le haillon, là, on s'en fout totalement, là.
Totalement. D'avoir, d'avoir la mesure comme si c'était un tape à mesurer pour ton haillon arrière. Ouais. Bon, Ève-Marie, à Salut Bonjour, avait dit, oh, moi, j'aime ça, je peux mesurer mes poissons quand je vais à pêche.
Oui, oui. Mais, okay. Mais c'est tout, là.
C'est ça. C'est ça. Fait que oui, on a... Mais remarque...
Mais les poissons, ils sont toujours gros comme ça. On sait jamais comme quoi, mais ils sont gros comme ça.
Mais tu sais, c'est pas les premiers à tomber dans la gadgetisation, comme tu dis, Marc. Souviens-toi, Chrysler, avec la Caliber, avec le Nitro, cette époque-là, la caravane en 2008, la quantité de bébelles qu'on avait mis là-dedans.
Même avec les camionnettes GM, là, où le haillon se déplie de 72 manières, là, tu sais...
Ouais, tu vas rouler dans le sable, puis après ça, c'est pas nettoyable, là?
Ben, c'est ça, tu sais, c'est plein de gadgets.
Ce genre de choses-là, oui. Chez Ford, je reconnais un petit peu ça, mais je pense que la matière est quand même... La viande est là quand même aussi. Il y a beaucoup de bon vie. C'est souvent empêché. Je change pas vraiment de sujet. Aller parler... j'ai passé au Santa Cruz, puis en allant voir ce qui a été présenté pour le Canada, je suis vraiment content de voir. Je trouve que c'est une sage décision de la part de Hyundai Canada d'offrir seulement...
4 roues motrices.
Avec le 2,5 turbo. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, ils offrent aussi une traction avec le moteur atmosphérique de 2,5 litres. Alors, je pense que la décision a été prise. C'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de matière, beaucoup moins de gadgets chez Hyundai. Puis je pense que vous allez être d'accord pour dire que ça vise pas le même public.
Je ne pense
pas. Mais Antoine, je pense pas. Moi, à mes yeux, spontanément, je suis vraiment pas sûr que ça va intéresser le même acheteur que le Ridgeline. Puis déjà, le Ridgeline, c'est quasiment un produit de créneau. Ça n'a pas vendu il n'a pas vendu par millions.
Mais on sait que c'est un produit que tu affectionnes particulièrement.
Non, mais le Ridgeline, le Ridgeline, il y a un problème. Il n'est pas regardable. C'est laid pour mourir. Voilà. Ça n'a pas de personnalité. C'est un produit exceptionnel. Mais sacrez-moi les designers dehors. Coulez-moi ça dans le fleuve avec un bloc de béton qu'on recommence. Bon. Ils ont tellement dessiné de modèles laid chez Honda, un après les autres, que c'est ce qui a coûté le succès de ces produits-là.
Et on le pousse pas plus qu'il faut, le Ridgeline, là.
Mais on n'a pas non plus. C'est il y a une pénurie de ces camions-là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un peu ça. Mais c'est la camionnette commercialisée. C'est arrivé en 2006, le Ridgeline? Écoute, le concept était extraordinaire.
C'est génial. C'est génial. Puis c'est drôle parce que Santa Cruz reprend une des choses qui nous avait frappé ou marqué le plus, c'était le fameux coffre qui est ajouté sous la plateforme à l'arrière. Hyundai a été assez brillant pour faire, comme tout le monde a d'ailleurs, c'est drôle, parce que tout le monde a imité Hyundai avec la troisième banquette qui se repliait dans le plancher dans les fourgonnettes. C'est la première Odyssey qui avait inventé ça, en guillemets.
Ouais, exact.
Puis là, ben, c'est la même chose. C'est une bonne idée, puis tant mieux. C'est de bonne guerre.
Je doute seulement, moi personnellement, je doute seulement du rendement. Ouais. Je suis vraiment pas un fan de la transmission double embrayage.
Ah, ben voilà.
Non, ça, c'est une autre histoire.
On a mis ça dans le Sorento, puis dans le Santa Fe.
C'est décevant, là.
Puis c'est une transmission qui fait pas le travail. Alors, dans une camionnette, j'ai mes réserves.
J'ai vraiment surpris, ça. Oui, j'étais vraiment surpris de voir ça. À cause, justement, de ce qu'il y a eu comme... Puis il y a une réaction saccadée. C'est surprenant. Puis c'est certainement pas parce que la 8 rapport conventionnelle n'a pas la capacité de coupe.
Ben non, elle est capable, elle fait du bon boulot. Puis c'est sans doute beaucoup moins fragile. Alors, enfin, bref. Marc, merci. Merci d'avoir été avec nous autres. Tu étais là pour parler du Maverick, on en a parlé 8 minutes, mais on s'est étendu, c'est parfait.
Avec son expérience, on réussit toujours à parler de plein de sujets avec lui. Merci beaucoup, Marc.
Ben, ça me fait plaisir. À la prochaine.
À bientôt, Marc. Bye bye.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, on va finir avec quelques questions du public. On a Mathieu qui nous dit, avoir lu notre article sur l'action collective de Nissan contre le bris de ses transmissions à variation continue, les questions du prolongement de la garantie jusqu'à 10 ans ou 200 000 km. Est-ce que cette extension de garantie s'appliquerait seulement dans le cas du bris de la transmission où tous les propriétaires des modèles concernés seraient protégés?
Bien là, en fait, il n'y a pas de jugement qui a été porté encore. Alors oui, il y a une
c'est
action...
C'est une demande qui a été déposée et autorisée.
Mais il n'y a pas de jugement qui a été fait. Alors, est-ce qu'on reculera loin derrière? Est-ce que tous les gens qui ont une transmission CVT dans leur Nissan seront soit dédommagés ou verront leur transmission remplacée? J'en serais bien surpris. Je pense qu'on va focusser sur ceux qui ont eu des problèmes. Je pense qu'on pourrait donner un dédommagement, mais de là à remplacer une transmission qui n'aurait pas montré de signe de faiblesse, je serais surpris. Mais encore là, c'est que de la spéculation parce que y a rien qui a été officiellement annoncé. On a seulement déposé une demande et reste à voir pour la suite. Pas plus compliqué que ça.
On a José qui nous dit avoir une famille de 6, donc 2 adultes, 4 enfants entre 6 et 12 ans. Il recherche un véhicule qui peut accueillir au moins 6 personnes, forcément, et qui peut tirer de 5 à 6 000 livres. Donc, pour une tente roulotte ou une petite roulotte l'été, qui a la climatisation. Donc, bienvenue en 2021, José. Ça fait pas mal partie de l'équipement de tous les véhicules et qui a assez d'espace pour la troisième banquette pour accueillir les enfants qui deviendront adolescents dans quelques années. Donc, on aimerait, elle précise, vouloir le véhicule neuf pour le garder une dizaine d'années. Ils ont présentement une Dodge Grand Caravan qui a justement 10 ans, mais avec laquelle ils ne peuvent pas tirer autant.
Et c'est malheureusement le problème des fourgonnettes parce que la fourgonnette est le véhicule idéal pour des besoins, mais ne remorque pas une telle charge. Alors, on n'a pas le choix de se tourner vers un VUS, on dit intermédiaire, mais ce sont presque des pleines grandeurs. Et là, ben, j'ai pas le choix de penser au Kia Telluride ou au Hyundai Palisade, qui pour moi sont des véhicules extrêmement bien construits, polyvalents. On aime beaucoup aussi le Honda Pilot, mais qui est un véhicule qui a vieilli énormément à ce
niveau-là. Absolument, mais il continue d'effectuer bien le travail.
Oui, exactement. Et Nissan qui débarquera d'ici peu avec sa nouvelle génération de Pathfinder.
Sur papier, qui nous semble plus convaincante parce que justement, ben, on a abandonné la CVT.
On a abandonné la CVT. On semble avoir complètement retravaillé châssis, suspension. L'habitacle semble encore plus spacieux. Alors ça semble pour moi un véhicule très intéressant. Évidemment, est-ce qu'on veut se lancer dans l'achat de premières unités et risquer peut-être un peu plus de problèmes de fiabilité puisque c'est une première unité dans un contexte où vous voulez garder le véhicule très longtemps? Moi, je pense que je me tournerais... on sait que l'Honda Pilot, c'est un achat extrêmement rationnel, réfléchi. Il y a la Highlander de Toyota qui est un véhicule très fiable.
Mais là, pour quatre enfants qui vont devenir quatre ados, c'est peut-être...
D'abord, l'espace est peut-être plus un problème. Deuxièmement, les suspensions ne font pas le travail pour ça.
Non.
Et si vous remorquez 5-6 000 livres, c'est un cauchemar parce que les freins sont pas assez performants. Alors, on oublie ça. L'avantage de ce véhicule-là, c'est la fiabilité. Mais pour l'ensemble de l'œuvre, moi, j'irais du côté du Kia Telluride ou du Hyundai Palisade.
Bon, excellent. On a Sébastien qui nous dit que sa blonde possède un Buick encore 2018.
Ouais.
Elle voudrait changer de véhicule pour obtenir plus d'espace à l'intérieur. Elle regarde le Buick encore GX et le Mazda CX-5. Est-ce que tu as une préférence entre les deux?
Ben, le Mazda CX-5, mais c'est pas le véhicule qu'on cible en premier lieu lorsqu'on va avoir plus d'espace.
Mais quand on passe d'un sous-compact à un compact, déjà, il y a plus d'espace, mais effectivement, au sein des compacts, c'est pas le plus spacieux.
C'est ça, mais je choisirais quand même un Mazda CX-5 100 fois avant un encore GX à moteur 3 cylindres, la question ne se pose même pas. Aller dans un CX-5 GS, par exemple, à 4 roues motrices, qui pour moi est peut-être l'offre la plus intéressante au niveau du rapport équipement-prix, vous allez être très, très bien servi. Mais oubliez l'encore GX, trop cher, mal motorisé.
Bon, ben c'est assez clair encore une fois. Merci beaucoup, Antoine, et je te souhaite une excellente fin de semaine.
Pareillement.
Cube Radio.